1 Pierre. Je vous encourage à prendre une Bible si vous n'en avez pas pour suivre en lisant avec nous. Je lis dans la version pas chère de la Bible. Je vais lire depuis le début en fait, depuis le début de 1 Pierre. Comme ça on se remet dans le contexte. On va prendre à partir du chapitre 1, verset 1. De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, à vous qui avez été choisis conformément à la préscience de Dieu le Père et conduits à la sainteté par l'Esprit, afin de devenir obéissants et d'être purifiés par le sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté. Il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Les prophètes qui ont parlé de la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils cherchaient à découvrir l'époque et les circonstances indiquées par l'Esprit de Christ qui était en eux lorsqu'il attestait d'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur a été révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient au service de ce message. Les hommes qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel vous ont maintenant annoncé ce message dans lequel les anges eux-mêmes désirent plonger le regard. C'est pourquoi tenez votre intelligence en éveil, soyez sobres et mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. En enfant obéissant, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit « Vous serez saints car moi je suis saint ». Et si c'est comme à un père que vous faites appel à celui qui juge chacun conformément à sa manière d'agir, sans faire de favoritisme, conduisez-vous avec une crainte respectueuse pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous le savez en effet, ce n'est pas pour des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés, de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la création du monde, il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité et lui a donné la gloire, de sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Vous avez purifié votre âme en obéissant par l'Esprit à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute créature est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Cette parole est justement celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Et on arrive au passage qui nous concerne ce matin. Débarrassez-vous donc de toute méchanceté et toute ruse, de l'hypocrisie, l'envie et toute médisance, et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut, si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. En effet, il est dit dans l'Écriture, « Je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'en aura jamais honte. » Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Bien-aimés, je vous encourage en tant que résidents temporaires et étrangers sur la terre à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. Prions. Seigneur, merci pour ce matin, merci pour ces paroles. Ouvre-les à nos cœurs, à nos yeux. Aide-nous à désirer ces paroles, Seigneur, comme tu le dis dans ce texte. Aide-nous à faire les choses que nous apprenons ce matin. Merci parce que nous sommes ton peuple, Seigneur, et tu veux nous parler, tu veux interagir avec nous. Parle-nous ce matin, en ton nom nous prions. Amen. Alors, en tout premier lieu, une petite remarque, peut-être un petit défi. Si vous avez vu, ça nous a pris combien de temps là pour lire là ? Cinq minutes, même pas ? L'étude, on va sans doute durer peut-être à raison de peut-être un demi-chapitre par semaine. Ça va nous prendre encore peut-être 8 semaines. Moi, j'ai fait le petit test pour pas dire de bêtises ce matin, mais ça m'a pris 12 minutes 30 hier, avec des interruptions daphnéesques. Essayez peut-être de lire ce livre par vous-même. Ça prend 15 minutes, hein, 15 minutes à lire. D'ici la fin de l'étude, je vous mets au défi de le lire 4 fois. Les choses qu'on entend le dimanche matin, elles reviennent à votre esprit et c'est ça qui nous l'ancre dans nos cœurs. C'est ça dont elle parle elle-même en disant « désirez cette parole ». Donc, ça prend pas longtemps. Voilà, je vous ai lancé le défi. Quelques rappels. C'est difficile de suivre avec Pierrot qui enseigne avant moi. Et pour moi, c'était dur. J'ai dû préparer un petit peu tout le livre parce que j'étais pas vraiment dedans. Donc j'en profite pour faire des rappels. Donc on a parlé du fait que c'est Pierre qui écrivait, qu'il écrit aux chrétiens qui sont persécutés sous Néron, vers l'an 64-65 de notre ère, qui a cette idée de souffrance, qui a l'idée de cette espérance vivante que nous donne Jésus. Et je voulais attirer votre attention sur quelques petits points qui, pour moi, m'ont vraiment enthousiasmé. Pierre, rappelez-vous qui c'est ce gars-là. C'est un des apôtres, un des 12 qu'on connaît le mieux dans toute la Bible. C'est celui dont on a le plus d'éléments, en fait. Il y a plein d'apôtres. Si vous lisez la liste, vous dites, bon, ben, on a son nom. Il y a des gars, Thaddeus. On n'a aucune idée de qui c'est ou de ce qu'il est devenu. Mais Pierre, c'est quelqu'un qui ressort quand vous lisez les évangiles, quand vous lisez même le Nouveau Testament. Il y a des épisodes avec Paul, il y a ses livres, il y a plein de choses. Et c'est un exemple de ce que Dieu peut faire dans la vie d'un homme. Et notamment avec ce livre de Pierre, avec cette idée de souffrance et de ce qu'il encourage les gens qui souffrent. Souvenez-vous que c'est Pierre qui, quand Jésus a dit qu'il devait aller souffrir et mourir sur la croix, il a dit non, jamais. C'est lui qui a défendu, qui est venu couper avec l'épée. C'est lui qui renie après Jésus, qui c'était le fier, c'était le dur à cuire, et de voir comment il est humble, comment il accepte la souffrance, comment il encourage les gens. Et je voulais tourner juste pour donner un petit quelque chose que je trouvais très beau. C'est quand on se rappelle dans Luc Il y a une petite remarque de la part de Jésus qui... Alors c'est dans Luc 20, si vous voulez vous y tourner. Pardon, Luc 22, verset 31. Donc Jésus parlant à Pierre, il lui dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. » Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Et donc, dans ce livre, dans 1 Pierre, on a la réponse, on a l'accomplissement de cette petite prophétie de Jésus à l'encontre de Pierre. Il lui dit, j'ai prié pour que Dieu te sauve et je veux que tu encourages les frères. C'est aussi Pierre, quand il avait renié, Jésus lui avait dit après, quand il l'avait restauré, il lui avait dit « paie mes brebis, occupe-toi du troupeau ». Et là, dans ce livre, il fait ça, il obéit, et c'est beau de voir que Jésus l'a restauré et comment Jésus a pu le transformer. Ça nous donne de l'espoir pour nous qui sommes mauvais, que Jésus peut nous changer. Quelques idées importantes dans ce livre, donc la souffrance. Il y a le lien entre la souffrance présente que nous avons à endurer et la gloire à venir. C'est des idées qui reviennent tout le temps. Le lien entre la souffrance de Jésus et celle des croyants. Il fait souvent le lien entre Jésus qui a souffert et nous. Et donc, c'est ce thème qui revient. C'est cette idée de souffrance, de persécution, d'épreuve. Et il va nous encourager, il va nous corriger la perspective. Souvent, quand on est dans la souffrance, on perd la perspective. Et il va aussi nous donner des informations concrètes sur comment vivre dans l'épreuve, quoi faire. Et donc, quand on regarde ces trois choses. On peut se dire, bon, surtout quand on prend le contexte des chrétiens à qui il écrivait, c'est pas forcément notre lot actuellement d'être utilisé comme des torches vivantes par Néron ou d'autres choses horribles qui ont pu être commises, mais la réalité et la chose que la Bible reprend beaucoup, pas que Pierre, c'est que en tant que croyant, en tant que disciple de Jésus, plus on va ressembler à Jésus et plus le monde va nous haïr. C'est le lot des gens qui veulent suivre Jésus et il n'y a pas d'exception. La Bible, c'est la règle, c'est l'état de fait de comment ça va se passer. Et parfois, je pense que notre vie tranquille et notre manque de souffrance, de persécution en tant que chrétien vient sans doute plus parce que c'est nous qui ne ressemblons pas assez à Jésus encore et que du coup on gêne pas assez le monde encore. Moi, en tout cas, c'est le diagnostic que je fais de ma vie. Si j'ai pas beaucoup de gens qui me rejettent, c'est parce que je parle pas assez ou je parle pas beaucoup aux gens de Jésus et de ce qu'il représente pour moi et de ce qu'il demande de leur vie. Et on a aussi la chance de vivre dans une époque, une période de paix dans l'histoire de l'humanité qui fait un peu figure d'exception à la règle aussi. Et donc parfois, quand on regarde ses souffrances et ses épreuves et on voit comment il écrit, on peut passer un petit peu à la légère. Mais si vous voulez suivre Jésus et si vous voulez vraiment ressembler plus à Jésus dans votre vie, vous allez endurer des épreuves, des persécutions pour Jésus. Et ces choses, à ce moment-là, prennent beaucoup plus de sens. Et donc, il nous encourage. Il commence avec Pierre, on a vu qu'on a une nouvelle naissance qui nous donne une espérance vivante, une certitude. On n'a pas un vague espoir, on a des certitudes sur ce que Dieu a fait dans nos vies. dans le monde, on a vu qu'il y a on a des espoirs qui nous déçoivent et qu'on peut en devenir un petit peu cynique par rapport à ces choses, mais nous pouvons espérer en Jésus. La Bible nous dit qu'il a vaincu la mort, il a la réponse à la mort. On peut espérer en Jésus, c'est une espérance vivante. On peut même voir dans la vie de Pierre, quand Jésus est mort, qu'il a renié, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est parti pêcher, il a dit « bon, il est mort, je retourne ». Et le changement radical, quand il s'aperçoit que Jésus est ressuscité, c'est lui qui parle, c'est lui qui dit « Jésus nous a donné une espérance vivante qui doit nous changer, il nous a donné un héritage qu'on ne peut pas perdre et qui va durer à jamais ». On connaît dans Matthieu 6, dans le Sermon à la montagne, le passage où il est dit « Amassez-vous des trésors qui ne pourrissent pas, qui ne rouillent pas, qui durent. » Là où est notre trésor, là aussi sera notre cœur. C'est cet héritage, si c'est notre trésor, alors ça doit nous donner de la joie. On ne peut pas le perdre. Et dans tout ça, on est protégé par Dieu. Par Dieu Tout-Puissant. On est dans sa main et personne ne peut nous en enlever. Vous connaissez dans Romains 8 ce que dit Paul. Il dit j'ai cherché, j'ai regardé tout ce que je peux considérer dans le monde, tout ce qui peut nous arriver, toutes les puissances, les dominations, tout ce qu'on peut, à quoi on peut penser ne peut pas nous enlever ces choses qui sont nôtres en Jésus. Et donc ces choses doivent nous encourager, doivent nous donner de la joie quand on est dans la difficulté, c'est des choses sur lesquelles on doit se concentrer. Et il nous aide aussi, ça et d'autres choses qu'on va voir dans tout le livre, il nous encourage à nous rappeler la bonne perspective, les bonnes choses. Nous avons une tendance, quand nous sommes dans les épreuves, à ne plus y croire. Si vous souffrez, si ça va pas, si vos projets échouent, si tout tombe à l'eau, vous dites « Dieu, est-ce que tu es là ? Dieu, est-ce que tu m'aimes ? Qu'est-ce qui se passe ?» Parce que, d'une certaine manière, c'est Satan qui nous tente, notre chair qui nous tente, le monde qui nous tente et qui nous dit « Eh, tu vois, ça se passe... Ah. » Et on doit dire non, on doit dire « Je veux la bonne perspective, je veux me rappeler les choses dont je sais qu'elles sont vraies. » Dans 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5, il est dit « Si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes, grâce à Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. » Et c'est cette idée de perspective, de dire « Satan vient et me dit quelque chose qui est faux, c'est des sortes de forteresses, c'est une bataille, c'est des mensonges qui nous sont envoyés. » Et Paul dans Corinthiens il dit « on doit avoir cette discipline de dire non ». Je prends ma Bible, je prends mes armes spirituelles et je combats ces choses pour les renverser. Et c'est difficile. C'est des choses dont on doit les faire, et on doit les refaire et les refaire et les refaire. Mais c'est ça que nous devons faire et c'est cette bonne perspective. Et Pierre nous rappelle les bonnes choses. C'est aussi important parce que dans l'épreuve, je sais pas vous, mais quand vous êtes sous pression, quand vous êtes dans la panique, quand il se passe quelque chose, on a tendance à prendre de mauvaises décisions, à prendre des décisions stupides sous le coup de l'émotion, sous le coup de la panique, sous le coup peut-être de la peur. On va faire des choses qui sont ridicules. Et d'avoir cette bonne perspective, de garder la tête froide à l'endroit, de pas faire n'importe quoi dans la crise, c'est tellement important. Et on va avoir quelques points de ces choses. Et puis l'autre point que je vous disais, c'est ces informations pratiques. C'est il nous dit bon ben vous êtes dans l'épreuve, c'est difficile. Faites ça. Ça aide aussi. Quand on est dans la panique, souvent on en vient à oublier ce qu'il faut qu'on fasse, ça aide d'avoir une liste d'instructions. Ça simplifie, on se dit, ok, bon, je me calme et je fais les choses qu'il faut que je fasse. On va voir plus loin aussi qu'on est des, comment dirais-je, simplement des ambassadeurs. On représente Jésus et que dans l'épreuve, le fait de suivre les instructions et de faire ce qu'il faut, ça donne un bon témoignage. On va le regarder après. Il nous dit aussi, et on a vu avec Pierre, d'avoir cette joie parce que les épreuves purifient notre foi. Et quand on regarde dans le chapitre 1, en fait, c'est notre foi qui... C'est un peu un échange. On va obtenir notre salut pour le prix de notre foi. Et d'avoir une foi qui est épurée, qui est solide, c'est quelque chose qui doit nous réjouir. Le fait qu'on peut s'appuyer sur notre foi, qu'on peut dire non, elle est là, elle est solide. C'est quelque chose qu'on a toujours du mal à réconcilier, cette idée qu'on doit se réjouir dans les épreuves parce que ça produit une foi solide. Pour moi, c'est souvent j'ai du mal à l'intégrer et à me dire ouais, je vais vraiment me réjouir, mais je crois que c'est quelque chose aussi qu'en y réfléchissant, en y méditant, en y revenant, qu'on se rend compte qu'on a cette foi solide, qu'on a cette assurance en Jésus, qu'on peut avoir cette stabilité et que ça, les épreuves produisent ça et que ça peut nous permettre vraiment d'être dans la joie vis-à-vis de Jésus, quelles que soient nos circonstances, quelle que soit l'épreuve. C'est difficile de se réjouir des épreuves. Mais c'est répété plein de fois dans la Bible, donc on doit le faire et faire de notre mieux pour le faire. Lisons à partir du verset 22 dans le chapitre 1, puis on va commencer le texte qui nous concerne vraiment ce matin. Vous avez purifié votre âme en obéissant par l'esprit à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute créature est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Cette parole est justement celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Débarrassez-vous donc de toute méchanceté et toute ruse, de l'hypocrisie, l'envie et toute médisance, et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut, si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. Ma première réaction en lisant ce texte, c'est quand je finis le verset 25 et il dit « Débarrassez-vous donc », je ne vois pas très bien le lien logique. Cette parole est justement celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. On est né d'une semence incorruptible. Donc, débarrassez-vous de ces choses. Mais ce n'est pas que ça. Il nous dit « Débarrassez-vous de ces choses » et désirez le lait. Et grâce à ces deux choses, vous grandirez. Et donc, en fait, ce qu'il nous dit, c'est vous êtes nés par d'une semence incorruptible qui est la parole de Dieu. Et cette même parole va vous permettre de grandir. Va vous faire grandir dans la foi. Et les choses qu'il dit ici qui sont des mauvaises choses, c'est des choses qui viennent faire obstacle à l'effet de la parole de Dieu dans nos vies pour nous faire grandir. C'est des choses qui nous empêchent de grandir. Donc il nous dit, il y a cette semence incorruptible, débarrassez-vous de ces choses Et désirez le lait et vous allez grandir. Méchanceté, ruse, hypocrisie, envie, jalousie, médisance. Pierre écrit à des chrétiens qui sont persécutés et on a l'impression qu'il a quand même besoin de les encourager, de s'aimer les uns les autres, de ne pas être méchants, de ne pas médire les uns des autres, de ne pas avoir de la ruse, de ne pas avoir de la méchanceté. Nous sommes humains et on va avoir des... Même en tant que chrétien, on continue à se chamailler, même dans la persécution, même dans la difficulté. Parfois, les gens vont vous dire l'Église persécutée elle est plus pure parce que les faux chrétiens s'en vont. C'est peut-être vrai, mais les hommes pécheurs sont toujours ceux qui constituent l'Église. Et les problèmes ne s'en vont pas. C'est fou. C'est dire la profondeur de notre perdition et le degré de besoin qu'on a de Jésus. Même, il n'y a aucune circonstance dans votre vie, aucun moment où je vais arriver à ne pas être bon sur cette terre, à dire ça y est, c'est bon, moi je suis pur, vous avez besoin de corriger encore quelques trucs, non. Pierre, il est obligé de leur écrire ces choses simples, hein. C'est aimez-vous les uns les autres, quoi. Soyez bons les uns les autres, ne soyez pas méchants, ne soyez pas là à essayer de vous arnaquer avec des ruses, ne soyez pas hypocrites, à dire ah oui, je t'aime bien, mais en fait je t'aime pas trop, à médire dans le dos, de parler des uns des autres, de minimiser la réputation des autres, d'avoir de la jalousie, de dire il a une voiture, il a un truc, lui il a un peu moins de persécution, qu'est-ce que c'est bien, c'est des choses simples, c'est des choses qu'on sait. Les enfants savent que c'est des choses qu'on doit faire, mais ils doivent nous le répéter. Et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Moi, comme j'ai un petit bébé, je vois comment un nouveau-né désire le lait. Quand on met la bouteille, en ce moment, Lindsay, quand elle fait la bouteille, si Daphné ne serait-ce qu'entend le bruit de l'eau qui bouge dans la bouteille, c'est fini. Tout ça gigote et elle se met à... Et on approche le petit biberon là et la tête elle ouah ça et quand elle était plus petite encore plus pour ceux qui ont été mères vous savez quand vous allaitez que le bébé il a envie de lait quoi enfin je sais pas peut-être c'est que Daphné hein mais c'est mais il y a un côté si elle loupe l'encoche elle va dire bon je sais que c'est par là je sais que c'est proche je vais faire ce qu'il faut pour avoir le lait quoi. Et ça doit nous donner un petit peu cette image qu'on ait envie, qu'on se dise je vais ah ouais c'est là. Et c'est il y a aussi quelque chose de naturel. Un bébé, on n'a pas besoin de lui dire. Plus tard, on a peut-être besoin de lui dire tu manges ta salade, tu manges tes épinards, machin, tu manges ta soupe. Mais un bébé, il n'y a pas besoin en général de leur dire. Si le bébé est en bonne santé, il n'y a pas besoin de dire bois ton lait. Quoi. Si on ne lui donne pas de lait, ça va mal se passer. Et ça doit refléter aussi pour nous, ça doit être quelque chose de naturel, cette envie pour la parole de Dieu. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que si on entend ces paroles et qu'on se dit finalement, moi je désire pas vraiment, peut-être que l'autodiagnostic c'est de vous dire j'ai pas vraiment un grand désir. Pourquoi j'ai pas un grand désir? Je pense qu'il y a une partie, c'est qu'il y a peut-être des choses dans votre vie, ces choses dont on a parlé au début, que vous n'avez pas rejetées, vous n'êtes pas venu à... Il y a un problème ou ça va? Qu'il y a ces choses qui nous empêchent de venir et d'intégrer la parole de Dieu et d'avoir cette faim pour la parole de Dieu. Quand on met ces choses de côté aussi, il y a un côté où on vient dans l'humilité et on vient avec un cœur honnête, ouvert à ce que la parole de Dieu veut nous dire. Et avec l'idée de faire ce que la parole de Dieu veut qu'elle nous dise. Je pense qu'il y a une partie où notre soif, peut-être notre faim pour la parole de Dieu se perd quand nous ne l'appliquons pas, quand nous la lisons simplement comme un livre comme ça, quoi. Et qu'on n'y vient pas avec l'objectif de dire ce que je lis aujourd'hui, je vais essayer de le mettre en pratique. Ces choses-là, je pense, font qu'on perd petit à petit notre désir. Donc si c'est mon cas, si c'est votre cas, il faut corriger notre comportement. Il faut rejeter ces choses, il faut lire la parole et l'appliquer. Et dans ce qu'il dit, il y a aussi un impératif, c'est-à-dire que c'est « allez-y, quoi, désirez-le, allez dedans, faites ça, et soyez, il y a une discipline ». Il y avait dans un des commentateurs que je lisais, il disait que malheureusement, l'Église souvent ne rejette pas les choses en question, ne désire pas le lait de la parole, et qu'elle finit par ressembler à un hôpital pour les enfants. Et c'est triste de se dire que l'Église peut être un hôpital pour les enfants parce qu'on va pas bien et on grandit pas. C'est l'idée, quoi. C'est le contraire de ce que Pierre nous dit. Et ne soyons pas de ces églises-là, pas qu'il y ait à accuser ou à pointer le doigt, mais nous rejetons ces choses et désirons la parole de Dieu. Et ça. Pour le défi, par exemple, ça peut être un petit challenge de vous dire, je vais lire Pierre et je vais désirer la parole de Dieu à un autre moment que juste le dimanche matin, quand je suis passif, je vais moi aller regarder dans la parole. Verset 4. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. En effet, il est dit dans l'Écriture, je mets dans Sion une pierre angulaire choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'en aura jamais honte. Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole, et c'est à cela qu'ils ont été destinés. La pierre angulaire, Jésus, c'est une idée qui revient plein de fois dans la Bible. Si vous êtes chrétien depuis quelque temps, vous avez déjà entendu parler de cette idée de pierre angulaire. Dans l'Ancien Testament, dans les psaumes, dans Ésaïe, dans Daniel, dans Jésus lui-même parle de ça en faisant référence à lui-même. Et cette pierre angulaire, l'idée c'était dans la construction, que c'était un petit peu le point de départ de la construction, on posait une pierre qui faisait référence. Si elle était bien posée, bien alignée, bien orientée, bien à niveau, les autres pierres étaient alignées par rapport à cette première pierre, et c'était cette première pierre qui conditionnait le bien de tout le reste de l'immeuble. Un petit peu, on pourrait parler de la fondation, de l'idée que si on bâtit bien les fondations, qu'on construit bien, après la maison qui va être bâtie au-dessus peut être solide et stable, etc. Si la fondation commence à s'affaisser qu'elle est un petit peu en travers, la maison va être en travers, etc. Et par rapport à cette idée de pierre angulaire, on peut conclure des choses par rapport à ce texte, parce que le texte nous dit que Jésus est la pierre angulaire, et nous sommes des pierres vivantes, et que Dieu prend Jésus comme la pierre angulaire, il commence avec Jésus, et qu'il nous prend ensuite pour bâtir une maison spirituelle. Et donc cette relation, cette idée dans la construction, il y a vraiment une illustration qui est faite là, et moi je vois trois points. J'imagine qu'il y a des gens qui peuvent en trouver plus, mais il y a l'idée que Jésus doit être le centre de notre vie, la fondation, mais qu'il doit aussi être le centre de l'Église, la fondation sur laquelle notre vie est bâtie et sur laquelle l'Église est bâtie. On doit tous avoir une relation avec Jésus. Les pierres, elles sont toutes alignées, tout est ordonné par rapport à la pierre angulaire, et tout est comparé, tout est mesuré par rapport à la pierre angulaire, les dimensions, les espaces. À l'époque, quand ils construisaient en pierre, ils taillaient, il y avait c'était par rapport à la pierre angulaire, c'était quelque chose de réfléchi. Donc on doit avoir Jésus comme centre, on doit avoir une relation avec Jésus, et on doit se comparer et se mesurer par rapport à Jésus. C'est lui notre référence. La Bible nous dit que c'est Dieu veut qu'on ressemble à Jésus. C'est lui l'objectif, c'est vers lui qu'on doit tendre dans la vie. Et quand on a ces choses dans notre vie, on a une vie solide, on peut avoir une vie stable, une vie sûre. Et les autres vont le voir. Il y a Jésus dans les évangiles parle du fait que on doit bâtir notre vie sur le rocher, pas sur le sable. Et de quoi il parle après? Il parle des épreuves. Il dit parce que quand la tempête vient, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est cette idée qu'on est bien construit, on est solide. Et c'est intéressant aussi, là, il nous dit « Approchez-vous de Christ, approchez-vous, vous. » On a une part de responsabilité, on doit venir à Jésus. Et ensuite, il nous dit « Laissez-vous édifier. » Il y a deux parties dans cette relation. Nous, on vient à Jésus, on désire le lait, on met de côté les mauvaises choses. Et Dieu, en échange, il construit quelque chose, il fait quelque chose avec nous. Il fait de nous un groupe de prêtres saints pour offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Il y a un parallèle aussi qui est fait avec Israël. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on peut comparer tout l'Ancien Testament, le temple, tout ce qui s'y passait, avec ce que Pierre dit ici par rapport à la maison spirituelle que Dieu est en train de bâtir maintenant, qu'est l'Église. Et il y a plein de comparaisons, plein d'idées qu'on peut tirer de cette comparaison. Je mets dans Sion une pierre angulaire choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'en aura jamais honte. Est-ce que Jésus est notre pierre angulaire? Est-ce qu'il est précieux pour nous? Là aussi, on doit grandir dans cette idée, dans cette relation avec Jésus, pour que cette relation à Jésus, pour qu'il devienne précieux à nos yeux, il faut aussi qu'on ait un peu comme disait Jésus, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Il y a un petit peu l'idée si je pourrais dire. L'exemple qui me vient à l'esprit, c'est quand vous pariez sur un match de sport, le match tout de suite il prend une autre dimension. Si vous pariez sur un cheval, j'en sais rien, je parie pas, mais si vous pariez sur un cheval, il y a un truc, le cheval c'est un peu, on regarde plus la course hippique de la même manière. Et vis-à-vis de Jésus, si on vit une vie distante où on s'engage pas, on dit à personne qu'on est chrétien et c'est normal que Jésus soit un petit peu moins précieux. Je ne peux pas imaginer, mais si vous êtes en prison et que les gens vous tabassent parce que vous dites que vous êtes chrétien, Jésus, tout d'un coup, il devient votre encre. Donc il y a aussi cette idée que pour que Jésus soit précieux, il faut aussi qu'on s'investisse vraiment par rapport à lui, par rapport à ce qu'on lit ici et qu'on obéisse à ce qu'il nous dit, et il va devenir plus précieux à ce moment-là aussi. Verset 7. Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Jésus parlant lui-même disait, vous allez me rejeter, je suis la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. C'est fou quand même de se dire que les gens, le monde rejette Jésus, non ? Si notre vision du monde c'est que, en tant que chrétien, que Dieu a créé le monde, qu'il a créé l'homme à son image, que l'homme a péché, etc. Jésus c'est ce que Dieu avait prévu au départ, l'idéal, c'est le paradis, c'est tout ce qu'il y a de mieux, c'est l'homme, le meilleur homme. Jésus, c'est le meilleur homme qui ait jamais vécu. C'est la perfection, et pas une perfection hautaine et qui juge, mais qui aime, qui a, enfin, il y a, et que le monde le rejette, c'est vraiment fou. Et il y a une réalité spirituelle derrière ça. Et la Bible nous dit, plus on va ressembler à Jésus, plus le monde va nous haïr. Et je me mets en garde, et je vous mets en garde, si vous vous dites, ah si je vis une bonne vie de chrétien, où je suis gentil, et j'aime tout le monde, et je suis bon, alors le monde va m'aimer. Si on va nettoyer la ville, et qu'on est gentil avec les vieux, les orphelins, alors la ville de Nice, le maire, il va nous aimer. Si on va faire des manifestations pour le bien, quel qu'il soit, alors le monde va nous aimer. C'est faux. C'est un mensonge de Satan. C'est fou, hein? Et pourquoi? Parce que Satan, dans le monde, il rend le mal bien et le bien mal. Et les gens désobéissent. Le texte nous le dit. Pierre nous dit, ils désobéissent à la parole. Quant à ceux qui désobéissent, cette pierre, Jésus, il vient, il leur dit, c'est comme ça que vous devez vivre, c'est ça qui est bien, et eux, ils disent, non, j'aime pas ça, moi, je veux faire le mal, c'est ça ce que je considère bien. Et donc, quand Jésus leur dit ces choses, ben, il le rejette. C'est intéressant de lire dans Jean 3, passage célèbre, mais auquel on s'arrête souvent un petit peu sans lire la suite. Si on lit dans Jean 3, 14, « Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. C'est la désobéissance, c'est le refus d'obéir à Jésus. Donc faites attention à cette idée, hein, de vous dire si... Ça influence notre manière de penser, nos réactions vis-à-vis des gens, vis-à-vis du monde. Si vous attendez, si vous dites je vais faire ci, ça, etc., et que le monde vous déteste, Pierre, il écrit aux chrétiens, là. Et ça doit être d'une certaine manière un encouragement, mais aussi, encore une fois, une remise en perspective où on se dit le monde nous hait parce qu'il rejette Dieu. Parce qu'il rejette Jésus. C'est pas moi, c'est pas mon petit être, c'est pas mon. Et il rejette parce qu'il refuse de se soumettre à Dieu. Et c'est ça la perspective correcte. On va voir après que on veut quand même vivre bien comme il faut, parce que les gens le voient, même s'ils nous rejettent, ils le voient. C'est ce qui commence au verset 9. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Bien-aimés, je vous encourage, en tant que résident temporaire et étranger sur la terre, à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous faisiez le bien, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendre gloire à Dieu le jour où il interviendra. Nous sommes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Remarquez que c'est les mêmes mots que dans Jean. Les lumières est venue et ils ont rejeté, ils ont préféré les ténèbres. Et Dieu, par Jésus, son travail, c'est d'appeler les gens hors des ténèbres pour les mettre dans sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. On sait que les païens, tous ceux qui n'étaient pas juifs, n'avaient pas le droit de cité en Israël. Ils étaient hors de cette alliance, ils n'avaient pas de lien. Et Pierre, il dit, vous faites partie de la famille. Vous êtes les pierres vivantes maintenant et Dieu bâtit la maison avec vous. C'est une nouvelle chose. Vous qui n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. C'est formidable ça. C'est cette idée qu'on était personne et qu'on est maintenant des enfants de Dieu. Qu'on a cet héritage. On est dans la maison. On est les fils prodigues qui reviennent à la maison et dit voilà, tout est là, faisons la fête. Il y a tout qui est disponible. Et il dit au verset 11, « Bien-aimé, je vous encourage en tant que résident temporaire et étranger sur la terre à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. » Le résident temporaire et étranger sur la terre, on va le voir après aussi, je vais en parler, mais la souffrance permet aussi de penser aux bonnes choses. Quand ça va mal, on a cette envie des bonnes choses. Si on est dans la difficulté, vraiment, on a cet espoir de ne plus être dans la difficulté, d'être dans le bien. Et Pierre nous dit, vous êtes dans la souffrance, dans l'épreuve, mais pensez au ciel, pensez que un jour vous allez être dans la gloire avec Jésus. Et on a parfois du mal, mais il dit, pensez-y. Ça doit nous donner encore plus envie, les souffrances dans le monde, les difficultés dans le monde, la réalité du monde. Quand on voit comment le monde va mal, on doit se dire, ah, vivement le ciel, quoi. Vivement qu'on soit tranquille, vivement qu'on soit bien. Un des commentateurs que je lisais faisait une remarque que je trouvais intéressante où il disait souvent les chrétiens pensent à eux comme étant des gens dans le monde qui essaient d'arriver au ciel. Et il dit en fait nous sommes des citoyens du ciel et on essaye de traverser ce monde ici. On n'a pas un passeport monde et on se dit j'essaie de tel un migrant d'arriver ailleurs. et qu'on veuille bien m'accepter. Il dit non, vous avez le passeport, c'est bon. Vous prenez l'avion, vous arrivez, on vous dit bienvenue, t'es chez toi. Il y a cet espoir. Ce passage-là, en tant que, oui, parle des difficultés, des résidents temporaires et des épreuves, je trouve qu'il est magnifique et je vous encourage à y réfléchir quand vous lisez les nouvelles concernant la crise des migrants. Je vais faire quelques remarques, mais je trouve ça tellement poignant de se dire, quand vous avez un passeport français, que vous êtes en Afrique et qu'il y a une guerre civile, etc., vous allez à l'ambassade, on vous dit hop, on vous garde, il y a les militaires qui vous escortent, tac, vous arrivez à la maison, ça va bien. Les autochtones, ils restent chez eux. Quand vous avez un passeport américain, on dit ça y est, c'est le sésame, je peux aller où je veux, tout le monde me dit bienvenue, etc., j'en sais rien, mais pas forcément, on est d'accord, mais c'est l'idée. Les illustrations ne sont jamais parfaites et complètes, hein. Mais c'est cette idée qu'on a, on peut avoir cet espoir de se dire là c'est la crise et c'est la guerre, mais quand je vais arriver au ciel c'est bon quoi. J'ai cet espoir. Je lisais un récit par rapport d'un réfugié syrien qui essaie d'aller en Suède et tout ce qu'il a dû endurer, toutes les étapes, toutes les choses qu'il a dû faire pour arriver jusqu'à là-bas en détail. C'est fou. D'une certaine manière, pour les gens du tiers-monde actuellement, l'Occident, c'est le « on va y être, quoi. Je vais tout faire, je vais donner tout ce que j'ai, je vais vendre tout ce que j'ai, je vais lisez les récits des gens qui sont dans la guerre, qui sont prêts à laisser derrière eux le travail, leur vie. Ils ont construit une vie depuis des années et ce monde, dans ce monde malheureusement horrible, ils sont obligés de tout laisser derrière et de se dire je quitte tout, peut-être il y en a qui partent sans leurs parents, sans leurs frères et sœurs, ils laissent tout en arrière parce qu'ils se disent il y a cet objectif devant moi qui est bon. Ça doit être notre vision du ciel, de nous dire ça vaut le coup, il faut que j'y arrive. Je me dis, quand je dis ces choses, que souvent je ne vis pas comme ça. Gloire à Dieu, on a cet espoir. Il y avait un auteur qui disait « La vie est dure et après on meurt ». Je ne sais pas si vous connaissez cette expression, ce passage. Il disait aussi que après on vous met la terre dans le visage et après les vers vous mangent. Soyez heureux que ça se passe dans cet ordre-là. On retient surtout l'idée que la vie est dure et après on meurt. C'est dur ici. Mais nous, en tant que chrétiens, on peut avoir cet espoir et ça doit changer notre comportement. On doit éviter les choses qui vont nous empêcher d'arriver au ciel. Dans Galates 5, 19, il dit « Les œuvres de la nature humaine sont évidentes, ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Abstenons-nous des désirs qui font la guerre à notre âme et qui veulent nous empêcher d'aller au ciel. Et aussi, dans ce texte, dans le passage, quand on s'abstient de ces choses, quand on a le comportement tel que Dieu veut, alors les accusations, la calomnie, ces choses-là ne vont pas tenir. C'est verset 12. « Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. » Sous-entendu, peut-être qu'eux aussi, ils viendront à Jésus et ils seront là au ciel. Que dans notre conduite, ils se disent « Tiens, il y a un truc différent, il y a un espoir qui est différent. Qu'est-ce que c'est ?» Les gens peuvent rejeter nos paroles, mais ils ne peuvent pas ne pas voir nos vies s'ils sont autour de nous. En quelque sorte, l'idée, c'est prenez soin de votre caractère aussi, et Dieu prendra soin de votre réputation. On doit avoir des moments où on dit, je ne veux pas faire ça parce que je suis chrétien, parce que Jésus ne veut pas que je le fasse. Et parfois aussi, de dire aux gens, ce que tu fais n'est pas bien. Et c'est ça qui amène aussi la persécution, c'est qu'on est là à dire c'est pas bien, et ils veulent pas l'entendre. Le texte la semaine prochaine continuera dans ces idées de comment se comporter dans le monde en tant que chrétien, de quoi faire, mais si nous vivons, on va subir des calomnies. Dans le sermon sur la montagne, Jésus en parle. Si vous allez être persécutés, heureux si on dit du mal de vous à cause de moi. On va nous accuser de choses. Je ne sais pas si vous avez ce sentiment, peut-être parfois, pas personnellement, mais par exemple, il y a eu des débats récemment sur le mariage gay, sur l'avortement, sur les choses encore peut-être pires qu'il prévoit dans les textes de loi. Et quand les chrétiens viennent et disent non, c'est pas bien, regardez dans les médias quel portrait on dresse des chrétiens. On dit ils sont horribles. Oh, ils s'opposent à l'amour. Ils ne veulent pas que les gens soient libres, etc. C'est parce que la société en tant que telle rejette le bien et dit on veut faire le mal. Et nous, si on est là, si on est vraiment, si on suit Jésus, si on devient comme Jésus, on va être comme des charbons ardents sur leur tête et ça les énerve. Mais Pierre nous dit, parce que vous êtes un peuple, parce que vous êtes des ambassadeurs, parce que vous êtes là et que vous êtes ce peuple et que les gens voient, vous devez vous comporter comme ça. Et on va voir des détails qui suivent. Si vous voulez vous tourner dans les psaumes, psaume 37. Pour terminer, ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et fais le bien, et le pays pour demeure, et que la fidélité soit ta nourriture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui, et il agira. Il fera paître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil en plein midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses entreprises, contre l'homme qui réalise ses méchants projets. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car les méchants seront exterminés, mais ceux qui espèrent en l'Éternel possèdent le pays. Encore un peu de temps et le méchant n'existe plus. Tu regardes l'endroit où il était et il a disparu. Les humbles possèdent le pays et ils jouissent d'une paix abondante. Le méchant complote contre le juste et il grince des dents contre lui, mais le Seigneur se moque du méchant car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent l'épée, ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et le pauvre, pour égorger ceux dont la voie est droite. Mais leur épée transperce leur propre cœur et leur arc se brise. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de nombreux méchants, car la force des méchants sera brisée, tandis que l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage dure éternellement. Ils ne sont pas couverts de honte quand vient le malheur, et ils sont rassasiés quand la famine est là. Tandis que les méchants disparaissent, les ennemis de l'Éternel connaissent le même sort que les plus beaux pâturages, ils s'évanouissent comme une fumée. Le méchant emprunte et il ne rend pas, le juste est compatissant et il donne. Car ceux que l'Éternel bénit possèdent le pays, et ceux qu'il maudit sont exterminés. L'Éternel a fermé les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas rejeté, car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste être abandonné, ni ses descendants mendier leur pain. Il est toujours compatissant, il prête, et sa descendance est bénie. Détourne-toi du mal, fais le bien, et tu auras pour toujours une demeure. Car l'Éternel aime ce qui est droit, il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, tandis que la descendance des méchants est exterminée. Les justes posséderont le pays et ils y demeureront définitivement. La bouche du juste annonce la sagesse et sa langue proclame la justice. La loi de Dieu, de son Dieu est dans son cœur, ses pas ne faiblissent pas. Le méchant épie le juste et cherche à le faire mourir, mais l'Éternel ne le livre pas entre ses mains et il ne le laisse pas condamner quand il est jugé. Espère en l'Éternel, suis sa voie et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays tandis que tu verras les méchants exterminés. J'ai vu l'homme violent dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant, mais il est passé, il n'existe plus. Je le cherche et je ne le trouve plus. Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit, car il y a un avenir pour l'homme de paix, tandis que les rebelles sont tous détruits, l'avenir des méchants est réduit à néant. Le salut des justes vient de l'Éternel, il est leur forteresse dans les moments de détresse. L'Éternel les secourt et il les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'ils cherchent refuge en lui. Seigneur, on te remercie pour ce texte ce matin. On te remercie pour le salut que nous avons en toi. Que ces choses, ces vérités qu'on voit dans ta parole sont vraies. Que nous avons cette assurance en toi. Que nous avons une espérance vivante. Que nous avons un héritage, Seigneur. Que nous sommes dans ta main, Seigneur. Tu nous sauves, tu nous secours quand tu es notre refuge. Et Seigneur, on veut faire ce que tu demandes. On veut rejeter les choses qui nous empêchent d'aller vers toi, de ressembler à toi, Seigneur. Les choses qui nous empêchent d'aller au ciel, qui nous retardent, ces péchés qui nous ralentissent, Seigneur, et on veut t'obéir, Seigneur, on veut te suivre. Et on veut aussi, Seigneur, être des témoins fidèles, Seigneur, pour les gens autour de nous, même s'ils nous rejettent, Seigneur, même s'ils nous détestent à cause de toi, Seigneur, on veut te ressembler, Seigneur. On veut te suivre, on veut t'obéir. Seigneur, pardonne-nous, pardonne-moi, Seigneur, quand je n'obéis pas. Seigneur, sois glorifié, merci pour ta parole. Tu es tellement bon avec nous. On a cet espoir de te voir un jour, Seigneur, de plus avoir ces luttes, de plus avoir besoin de la foi, Seigneur, d'être face à toi. Et aide-nous sur le chemin qui nous mène à toi, Seigneur. Amen.